Micro ouvert. Micro ouvert.
Vous écoutez Fréquence Mistral. Micro ouvert. Et bonjour et bienvenue dans ce micro ouvert. Aujourd'hui, nous parlons de justice climatique. La justice climatique est une notion politique récente relative aux conséquences inégalitaires du changement climatique. Elle se traduit notamment par des actions en justice menées par des associations et collectifs citoyens contre des États ou des entreprises. Elle pose la question de l'égalité face au dérèglement climatique plutôt que les approches uniquement environnementales ou physiques. À l'échelle mondiale, 90 entreprises sont à elles seules à l'origine des deux tiers des émissions de gaz à effet de serre. Les changements climatiques entraînés par ces émissions et les phénomènes climatiques extrêmes comme les tempêtes, les inondations ou les sécheresses, la montée des eaux, affectent tragiquement certaines populations dans le monde et généralement parmi les populations les plus pauvres du globe qui, de par leur mode de vie, sont aussi les moins responsables du dérèglement du climat. Les inégalités climatiques recoupent bien souvent les inégalités économiques. Il est donc indispensable que ces entreprises changent de modèle économique et soient traduites en justice et que les États, seuls à même de prendre des mesures à la hauteur du défi climatique, soient contraints à agir en modifiant le cadre réglementaire pour les entreprises et en accompagnant les transformations industrielles et sociétales à engager. Alors, pour parler de justice climatique et des actions qu'ils mènent, j'accueille aujourd'hui dans les studios Christophe Houdelin, bonjour.
Bonjour.
Et Rebecca
Dugdal
pour Alternativa Marseille. Bienvenue et merci d'avoir répondu présente pour cette émission spéciale. Le mouvement Alternativa met en lumière les alternatives concrètes pour lutter contre le dérèglement climatique et les relier. Et partout, ils et elles agissent pour un monde juste et soutenable qui ne laisse personne de côté.
Oui, c'est bien ça. Vous avez bien résumé nos actions.
Est-ce que pour commencer, vous pouvez nous resituer Alternativa dans son histoire et aussi les différences entre le national, le local, parce que vous êtes basé sur Marseille.
Alors Alternativa, c'est un mouvement qui est né en 2013 au Pays Basque et ça veut dire « alternative » en basque. Et donc c'était un mouvement qui était destiné justement à allier la justice climatique et sociale, puisqu'on considère que les deux vont de pair et que si on veut agir pour le climat, il faut agir aussi pour tout le monde et pas seulement qu'une seule catégorie de population, notamment les plus riches. On ne peut pas faire une écologie pour les riches, mais aussi la développer pour l'ensemble de la société, que ce soit en France ou ailleurs, quoi. Donc effectivement, après nous, Alternativa, pour faire vite un petit résumé, donc une fois que la création a été faite, il y a eu des tours Alternativa qui ont été organisés, un en 2015 et un en 2018, et qui ont accueilli des villages étapes, comme un peu le Tour de France, hormis que là c'était des villages des alternatives, pour justement démontrer qu'un autre monde était possible, et il fallait simplement mettre en pratique les alternatives qui existaient déjà. Et c'était l'occasion de faire des formations, et notamment des formations aussi à la désobéissance civile, avec la deuxième jambe d'Alternativa, qui est un collectif, qui n'est pas une association pour le coup, qui s'appelle ANV COP 21, donc Action Non Violente. Et on a pu voir certaines actions comme les décrochages des portraits de Macron, ou plus récemment des actions sur un golf dans le Var. Après, donc une fois que ces deux tours ont été passés, le mouvement vraiment Alternativa a commencé à s'ancrer dans tous les territoires Et à Marseille, il y a eu plusieurs étapes. Il y a eu déjà une première création d'association en 2015, qui après s'est dissoute, et une recréation en 2019, où là, le mouvement a perduré. Maintenant, Alternatiba Marseille, on était là jusqu'à la dernière AG qui a eu lieu il y a quelques jours, une centaine de membres. Donc, c'est un mouvement qui commence à peser. Et en fait, c'est aussi le... Alternatiba Marseille, en fait, on a développé pas mal d'expertise, si on peut appeler ça comme ça, en mobilisation citoyenne et en stratégie. Et un des volets stratégiques qu'on a développé, c'était la création de tiers-lieux qui soient dédiés à la justice climatique et sociale. Et donc, on a initié la création de la base à Marseille, comme il y a pu y avoir ailleurs en France. Et maintenant, il y a 15 bases partout en France, quoi. Donc ça, c'était une de nos actions à Marseille. Et on a initié aussi la création d'une autre association qui était collectif avant, c'était une campagne d'Alternatiba qui s'appelait Marseille en transition. Et Marseille en transition, je crois qu'elle a été reçue aussi dans ce studio, il me semble. Et pour justement passer du côté plaidoyer, puisque Alternatiba en fait beaucoup de plaidoyer, et pour passer au volet supérieur, c'est-à-dire que quand les politiques n'agissent pas, eh ben, comment on va au-delà? Et pour le coup, en agissant nous-mêmes pour contraindre les politiques à bouger, à faire bouger des lignes.
Et oui, le plaidoyer international et national, c'est super important pour agir vis-à-vis de l'État, mais des entreprises et des collectivités.
C'est ça.
Localement, vous avez un site internet qui est alternatibamarseille.org, tout attaché. On y retrouve toutes les différentes campagnes que vous menez et les actions. Est-ce que vous pouvez nous les présenter?
Alors déjà, on a monté un collectif, c'est celui de Mars Mob. Donc c'est un collectif marseillais des mobilités de demain, qui donc est destiné à augmenter les mobilités dites alternatives à la voiture individuelle, parce qu'on voit que il y a beaucoup, notamment à Marseille, beaucoup de personnes qui circulent encore en voiture, pour atteindre justement la neutralité carbone et améliorer la qualité de vie des Marseillais et Marseillaises. Et ça, par exemple, c'est un collectif qui est interassociatif. On a fait rejoindre énormément d'associations de Marseille pour justement nous aider à compléter cet objectif, mais aussi à essayer de faire parler un peu plus aux gens des alternatives à la mobilité. Donc, sans les citer toutes hein, et tous, mais on a par exemple déjà Alternative à Marseille, parce que c'est là d'où ça vient à la base, mais il y a aussi les Amis de la Terre, il y a les membres d'Extinction Rébellion, Greenpeace, l'association Greenpeace, oui. Notaire PACA, il y a 60 millions de piétons aussi, parce que forcément, on part du principe que les mobilités, c'est piétons, vélos, transports en commun. Voilà, donc il y a aussi Air Citoyen, il y a Vélo en Ville, bien sûr, qui nous a rejoint aussi. Vélo Seine, Cyclotopia, France Nature Environnement 13 et Clean Cities. Donc là, en effet, ça part pas que de la mobilité, mais aussi de tout ce qui est amélioration de la qualité de l'air, ce qui est un peu le but ici dans notre collectif.
Et c'est voilà. Très actuel à Marseille, puisque ces 5 dernières années, moi, j'ai vu se multiplier les vélos.
Oui.
Parce que nous n'étions pas nombreux et il y a de plus en plus de personnes qui circulent à vélo.
Oui, absolument. Alors, par exemple, moi, je suis arrivée à Marseille uniquement l'année dernière, mais j'ai beaucoup parlé à des personnes... Qui sont ici depuis très longtemps, qui m'ont dit que ça s'est amélioré, certes, et ça fait plaisir, ça fait vraiment plaisir. Mais il y a encore du travail. C'est pour ça qu'on l'a monté, parce que, on va dire, les politiques publiques ne répondent pas toujours à exactement ce qui est demandé et ce dont on a besoin.
Et il y a une large amélioration à mener sur Marseille, en tout
oui.
cas.
Oui, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que c'est aussi c'est bien de mettre en place et d'améliorer les choses, mais il faut qu'elles soient efficaces. Et actuellement, lorsqu'on constate les choses à Marseille, je prends l'exemple des piétons, parce que c'est un peu celui qui est vraiment en haut de l'échelle, considéré comme le plus vulnérable. S'il doit descendre du trottoir pour aller de A à B, parce qu'il y a des voitures stationnées sur les trottoirs, eh bien, on constate en réalité un peu un danger et quelque chose qui n'est pas efficace. Alors, il y a un peu des exemples comme ça pour les piétons. Il y a aussi l'exemple des cyclistes. Les cyclistes qui sont sur les pistes cyclables mais qui doivent aussi descendre parce qu'il y a soit des poubelles de la métropole posées dessus, alors qu'il y a un, Il y a clairement une signalisation de la route qui indique qu'elle est obligatoire. Donc, c'est très contradictoire. Nous, c'est exactement pour ça qu'on a monté ce collectif. On constate en fait que ce n'est pas confortable, comme l'estime la métropole. La métropole, elle a récemment dit qu'elle estime la situation confortable, notamment sur le plan vélo. Oui, c'est étonnant. Voilà. Et on part aussi sur les transports en commun, qui, certes, ça s'améliore, hein, c'est chouette, on peut circuler, mais il y a beaucoup de quartiers qui sont ignorés, oubliés. On voit dans le 15e, le quartier nord. Et souvent, en fait, le problème, c'est que là, il y a un nouveau tram qui va être construite, mais il passe exactement là où il y a le métro, et à Arenc-le-Ciot, c'est super, il y a beaucoup de personnes qui travaillent vers là-bas, mais on a deux trams et un métro, ils passent tous au même endroit, donc je pense qu'il y a aussi énormément de choses à faire là-dessus.
Très bien, et quelles sont les actions de collectif Mars Mob?
Les élections?
Quelles sont les actions?
Ah, les actions, les revendications.
Des choses qui vont avoir lieu prochainement?
Alors là, on a commencé à faire une enquête participative. On essaye de demander aux personnes, déjà à Marseille, qu'est-ce qu'ils en pensent. Est-ce qu'eux, ils estiment la situation confortable? Bon, d'après les résultats qu'on a maintenant de l'enquête, qu'on pourra citer après, eh bien, en fait, non. Voilà, c'est pas confortable, c'est difficile pour les personnes de circuler, d'où peut-être l'utilisation plus importante de la voiture individuelle. Ça, c'est une première chose. On a ensuite commencé déjà depuis quelques mois la rédaction d'un argumentaire. Cet argumentaire, il a bientôt fini. On va le terminer à la fin du mois d'août. Il est destiné à expliquer, à argumenter et à donner nos revendications sur les mobilités alternatives qu'il y a à Marseille et pour que justement Marseille soit plus vivable d'ici, en tout cas en 2030. On ne se cache pas que voilà, la situation climatique, hein, c'est en fait vraiment une urgence. C'est un fait. Nous, suite à un peu à la réponse du président qui aurait pu prédire, nous, on pense que c'est le moment de dire qu'il faut quand même agir.
J'aurais voulu rajouter effectivement pourquoi on lutte avec cette campagne sur les mobilités actives. C'est parce que les enjeux climatiques sont vraiment, vraiment très, très forts à Marseille, puisque en dehors des pollutions des bateaux et des avions et de l'industrie, il y a aussi une bonne part des émissions de gaz à effet de serre qui sont dues à la circulation au trafic routier. Et notamment, cette part est égale à 38% à Marseille, ce qui est beaucoup plus que dans d'autres villes. Et tout ça parce que la ville a été développée pour les voitures. Tout ça, ce sont des chiffres qui sont issus d'enquêtes demandées par la mairie et la métropole. Donc si on ne fait rien, si on continue sur cette trajectoire, il fera 90 degrés au sol en 2050 dans certaines rues de Marseille. Donc voilà, ça pose le constat qu'il faut vraiment agir et ce n'est pas en mettant quelques vélos ou des arceaux de sécurité sans mettre de pistes cyclables, tout ça, qu'on va arriver à faire un transport modal efficace.
Juste pour ajouter, donc on a bien sûr cité des revendications pour tout ça, hein, pour le contexte climatique et aussi le confort des personnes, pour qu'elles puissent répondre à cette solution de changement climatique. Parce qu'actuellement, on cherche des solutions, hein, et plus de constater les faits, c'est déjà fait depuis un moment, je pense. Certaines revendications peuvent être, par exemple, qu'est-ce qu'on en fait de la ZFE? Est-ce que la ZFE, finalement, c'est un moyen qu'on peut aussi peut utiliser ou est-ce que vraiment c'est discriminatoire au niveau social et est-ce que c'est applicable pour tout le monde? Est-ce que finalement on ne tourne pas en rond?
Les sigles AZFE, qu'est-ce que c'est?
Christophe va peut-être m'aider.
Zone à faible émission.
Voilà, oui. Donc c'est les critères, en fait, c'est une pastille qu'on met sur une voiture pour dire si oui ou non elle peut circuler en centre-ville, si elle est très polluante ou pas, et bien sûr, sans partir trop à côté, mais on sait très bien que les personnes qui n'ont pas beaucoup de revenus ne peuvent pas s'acheter une nouvelle voiture, une voiture électrique, pour répondre à ce critère, qui vont en plus être encore plus discriminées, ou en tout cas rejetées à l'extérieur de la ville, qui pourront encore moins venir en centre-ville, qui vont peut-être même continuer à rouler, puisque peut-être qu'il n'y aura pas de contrôle suffisant, donc voilà. On tourne pour moi en rond. Donc ça, c'est une première chose. Après, on a aussi des revendications sur les pistes cyclables. Hein. Il faut quand même mettre en demeure la métropole ou en tout cas les autres politiques publiques autour. Dire que voilà, certes, le vélo n'est pas la première solution au monde, mais ça fait quand même quelque chose, une grande différence. Après, on a aussi pour les piétons, peut-être une demande de plus de contrôle. Parce que bon, on sait à Marseille que c'est pas évident pour une personne à mobilité réduite pour se déplacer à fauteuil roulant. Je pourrais pas imaginer ça. C'est une horreur. On pourra publier en tout cas l'argumentaire. Vous verrez, il y a vraiment énormément de points qui répondent en fait aux besoins des personnes.
Et ce qui est intéressant dans Mars Mob, c'est aussi que vous êtes associé entre différentes associations et collectifs pour rassembler vos revendications et j'imagine pour faire poids, pour ensuite pouvoir aller aux conseils municipaux ou à la métropole agir avec cet argumentaire.
Alors en effet, on a commencé à monter ça dans Alternatiba en se disant, moi j'ai rejoint Alternatiba l'année dernière, suite à un accident qui a eu lieu à Marseille, à vélo, qui a été mortel pour une personne, et moi qui circule toujours à vélo, j'ai eu un coup de stress. Et donc, j'ai rejoint Alternatiba, j'ai demandé, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Et on a commencé à cogiter sur, est-ce qu'on intègre les autres associations? Parce que je pense qu'il y a tellement d'associations qui parlent de différents points. Donc, je prends l'exemple de Vélo en Ville, les déchaînés, Amis de la Terre, les 60 millions de piétons. Et on s'est dit, là, on va parler de mobilité, en fait. Là, il faut faire rejoindre les personnes et ben, l'union fait la force. Et donc, chaque association a aussi son objectif. Donc, voilà, il y a aussi des procédures judiciaires. On a bien vu Collectif Vélo en Ville, eux, ils font leurs procédures à côté. Nous aussi, on va mener une action judiciaire. À la fin de l'argumentaire, on pourra décider exactement quelle sera notre demande en justice. Mais en tout cas, on est sûr de ce qu'on fait.
Très bien, merci. J'ai vu donc sur votre site que vous avez d'autres campagnes, peut-être que vous avez aussi envie de présenter aujourd'hui.
Ben en fait, on a 4 autres campagnes sur lesquelles on est engagé. C'est toujours un peu en intercollectif. Enfin, voilà, on aime bien initier des campagnes ou en rejoindre d'autres. C'est le cas notamment de Stop Croisière. Donc, je pense que pas mal de gens connaissent maintenant. Et notre dernière action, c'était il y a une dizaine de jours. On a fait une manifestation sur l'eau avec une centaine de personnes. On avait des voiliers, on avait des kayaks et on a manifesté quand les bateaux de croisière sont sortis du port. Tout à l'heure, en préambule, je parlais de la pollution maritime. Ben, les bateaux de croisière en sont une. Et c'est quelque chose qui est complètement inutile au regard des enjeux climatiques. Si c'est juste pour faire du tourisme de masse, ben, en fait, c'est quelque chose dont on peut se passer. Mais pas qu'à Marseille, partout, en fait. Hein. Enfin, voilà, on n'est pas en train de dire on ne veut pas de croisière à Marseille, les autres, débrouillez-vous. Il y a vraiment même des mobilisations européennes qui sont en train de se faire sur ces thématiques-là.
Donc les bateaux de croisière, on rappelle, c'est ces grands immeubles sur l'eau qui doivent garder leur moteur en permanence en fonctionnement pendant leur durée de stationnement.
C'est ça, oui, pour toute la vie du bateau, j'allais dire. Et de toute façon, comme il y a des passagers qui restent à bord aussi, ben, du coup, ils font tourner les moteurs tout le temps. Alors, la région notamment nous promet une électrification des quais pour tout le monde donc, et des carburants au gaz liquéfié, mais tout ça c'est vraiment du greenwashing parce que faut savoir que justement de faire fonctionner tous les navires à quai à électricité, ça demanderait tellement d'énergie que ce n'est pas faisable, hormis de construire d'autres centrales nucléaires. Donc voilà, est-ce que c'est vraiment le monde dans lequel on veut aller? Et donc je rappelle l'action la plus marquante de Stop Croisière, ça a été le blocage du plus gros paquebot du monde l'an dernier, pile il y a un an quoi. Donc on a d'autres campagnes, notamment le stop extension de l'aéroport de Marseille-Marignane, où on a fait un recours juridique pour bloquer ce projet-là, qui malgré tout, ils ont quand même commencé les travaux, donc on est toujours dans l'attente du jugement. Ça fait des semaines qui repoussent à chaque fois. Et donc là, on lâchera pas notamment non plus cette partie-là.
Quel est leur projet? C'est de mettre plus de pistes?
Alors, ils n'ont pas présenté ça comme ça. Ils ont présenté ça en deux phases. Une première, c'est pour améliorer les flux à l'intérieur de l'aéroport, pour que ce soit accepté. Et effectivement, l'autre phase qui est plus cachée, c'est de développer effectivement le trafic aérien, alors que c'est quelque chose de complètement fou de se dire maintenant on va continuer à utiliser, à prendre des vols pour 20 euros, on va à l'autre bout de l'Europe, des trucs comme ça. Enfin, c'est vraiment un système aberrant. Il faudrait vraiment transférer les subventions qui sont octroyées au trafic aérien, les transférer au ferroviaire. Là, vraiment, là, il y aurait un vrai sens pour faire baisser le prix du train et faire ce transport modal. Et notamment, il y a aussi un nouveau aérodrome qui est en cours de construction, qui est à Aix-les-Milles. Et là, c'est pour tout ce qui est voyage d'affaires. Donc, les jets privés, les machins, voilà, tout. On a l'impression qu'on est dans une démarche où ils y vont franco, ils savent où on va. En fait, ils ont tous les textes, ils savent dans le monde dans lequel on va, qui n'est plus vivable, et pourtant, ils y vont encore plus vite.
Voilà, oui, c'est augmenter les inégalités pour que les hommes d'affaires se déplacent en jet privé et polluent énormément et que les autres, en bonne conscience, circulent en train.
Ben oui.
Et ce qui est une très bonne chose, mais c'est bizarre qu'il y ait toujours ces choses à deux vitesses. Quoi.
Et encore, parce que le train, il est très cher actuellement, donc ça se commence à aller vers une direction... On se demande si c'est un déni ou si c'est vraiment pour nuire, parce que même à la fin, il y a beaucoup de personnes qui ne pourront même plus circuler parce qu'on dira, voilà, vous ne pouvez plus, il y a une mauvaise conscience derrière, il y a des prix excessifs et à côté, il y a des jets privés qui arrivent, voilà, parce qu'on peut se le payer. Mmh. Et ça, en effet, ça, c'est
Et sur la SNCF, les prix font qu'augmenter depuis 2020, moi qui prends souvent le train, avec toutes ces histoires de Covid. Et sauf que depuis... Avant 2020, les bénéfices de la SNCF ne font qu'augmenter. Donc il y a aussi des questions à se poser sur le prix des trajets qui pourraient dès maintenant baisser et mettre à des prix accessibles à beaucoup plus de monde.
Ouais. C'est toujours cette histoire de modèle économique qu'ils veulent faire perdurer, quitte à utiliser du greenwashing, et notamment le carburant vert pour les avions. Ça aussi, pareil, c'est aberrant, quoi, de se dire qu'ils veulent continuer ce modèle-là alors qu'ils savent très bien là où on va, et le ministre de Transition écologique a quand même admis qu'on allait vers un monde à plus 4 degrés.
Oui.
Plus 4 degrés, alors, pour les auditeurs et les auditrices, je ne sais pas comment ça peut s'imaginer, mais en gros, à plus 2 degrés de réchauffement global, on risque d'affronter des boucles de rétroaction et avec un système d'emballement. Et ce système d'emballement, ce n'est pas du tout jusqu'où il peut nous amener. Donc c'est pour ça que nous, on se mobilise et qu'on encourage toutes les personnes à rejoindre, pas qu'Alternativa, mais tous les autres mouvements qui sont engagés là-dedans, pour justement, pour à la fois résister à ce monde qu'on nous promet, mais aussi en construire un autre. C'est vraiment ça, développer les alternatives, imaginer un autre monde, c'est vraiment très moteur pour l'engagement.
Et aussi en parlant d'inaction climatique, d'ailleurs je reprends ce que dit Christophe sur ce monde qui sera réchauffé à plus de 4 degrés en moyenne, il faut dire aussi que jusqu'à présent c'était je crois plus 1,5 si on respectait le protocole de Paris.
Oui.
Et ben, sauf qu'il n'a pas été renouvelé, donc en fait c'est presque incompréhensible.
Oui, vous voulez dire que ça va être rapidement beaucoup plus que 4 degrés.
On peut prédire ce qui va se passer, vers où on va. Certes, je suis d'accord, on ne peut pas prédire le chiffre exact, mais il y a quelque chose.
Donc, on peut supposer.
on peut supposer, oui.
On va se faire une petite pause musicale avant de revenir à d'autres actions que vous menez. On écoute Claudine Lebeg, Un camion dans la nuit.
Je suis un camion dans la nuit, les feux braqués sur l'inconnu. Je suis un camion sous la pluie, la route est nue. La belle pendue à mon pare-choc, qui prend le vent comme une proue, me fait le plein d'électrochoc, et la vitesse nous rend fous. Une guirlande aux essuie-glaces dans ma réserve de diesel. Au carburant de mon palace, y a des chansons pour chaque ciel. J'oublie les nuits sur les parkings, les petits matins sous les hangars. Il reste encore de la gasoline, remettons-nous du bleu au phare.
Présence de Alternatiba Marseille dans cette émission sur Fréquence Mistral. Est-ce que vous voulez nous présenter maintenant votre campagne sur les déchets ?
Alors oui, il y a aussi donc une campagne qui est menée par Stéphane actuellement sur la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, donc ce qu'on appelle la TEOM, TOM. Marseillaise, celle qui est à Marseille, elle est de 40% de plus, donc plus élevée que la moyenne nationale, donc notamment parce que la métropole, elle n'applique pas la redevance spéciale auprès de toutes les entreprises et tous les professionnels. L'objectif de ce groupe de travail, c'est de réduire donc de 20 millions d'euros cette taxe et de faire appliquer la redevance spéciale, notamment auprès des professionnels qui génèrent le plus d'ordures. C'est pas un secret. Et donc, actuellement, ils sont en train de rédiger un plaidoyer. Donc, voilà, sur notre site Alternatiba et compagnie, il y a beaucoup plus d'informations là-dessus, puisque c'est Stéphane qui mène le projet. Je pense que, voilà, il y a pas mal d'informations.
Il y en a d'autres aussi. Il y en a d'autres aussi que Stéphane.
Bien sûr, bien sûr. Ah oui, mais en tête, j'avais que Stéphane. Mais en effet, bien sûr, il n'est pas tout seul. Hein. On n'est jamais tout seul dans ce genre de campagne. Voilà.
Après, il y a juste eu une action de désobéissance civile qui a été menée aussi là-dessus vis-à-vis de la métropole. Voilà. Puisqu'on voit que le traitement des déchets de la métropole n'est pas optimal, c'est moins qu'on puisse dire.
Et donc, vous avez également une campagne sur les précarités énergétiques.
Alors, c'est quelque chose qu'on a démarré très récemment et qui est une campagne Alternatiba qui est menée avec des collectifs sur le logement, notamment le logement indigne. Et on est très en lien, avec, par exemple, avec le collectif de 5 novembre là-dessus, où on essaie depuis quelques mois à initier une démarche là-dessus, tournée vers les quartiers populaires et qui souffrent justement de ces problèmes de logement à la fois insalubres et à la fois de précarité énergétique. Et comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est les premiers qui vont être impactés par les effets du dérèglement climatique, parce que s'il fait 90 degrés au sol dehors et que ce n'est pas bien isolé, imaginez que ça va être invivable dans les habitats. Et il y a tout un tas de choses liées à la précarité énergétique, donc on pense tout de suite à l'isolation. Et effectivement, on pourrait développer des filières de matériaux biosourcés pour faire de l'isolation thermique ici. Donc ça recrée aussi des activités économiques qui pourraient être perdues par des activités néfastes qui pourraient s'arrêter, comme dans la pétrochimie ou des choses comme ça. Et aussi développer tout l'aspect végétalisation, qui a un impact vraiment très fort si on veut s'adapter au dérèglement climatique en plantant des milliers d'arbres. Il y a quand même la mairie de Marseille a quand même voté un plan de 308 000 arbres qui vont être plantés, alors je ne sais plus dans quel laps de temps exactement, mais donc il y a quand même des actions qui sont menées par les collectivités, à voir si ça va aller, si ça va quand même répondre aux enjeux. C'est toute une logique en fait qu'il faut repenser, c'est pour ça qu'on a toutes ces campagnes-là, parce qu'en fait c'est un système qui est un peu cohérent, c'est développer vraiment un système alternatif au niveau local pour pouvoir s'adapter au dérèglement climatique et atténuer ses effets.
Oui, et d'ailleurs, ça me fait penser, la semaine dernière, dans une revue de presse, j'avais entendu qu'actuellement en Inde, combiné entre les grosses chaleurs, donc 53 degrés, plus l'humidité, il y a énormément de gens qui meurent maintenant, souvent des personnes de plus de 60 ans, mais quand même, là, en Inde, il y a beaucoup de gens qui sont morts ces dernières semaines. Donc c'est très concret ce qu'on dit, c'est pas dans le vent. Ce qui se passe en Inde là peut certainement se passer à Marseille d'ici quelques années.
Ce que dit le GIEC notamment, c'est que l'Asie du Sud-Est pourrait devenir inhabitable dans quelques décennies. Donc voilà, on en est à ce niveau-là.
On est là, quoi.
Voilà. Ce qui veut dire plein de problèmes, parce que les gens qui vont souffrir de ça, qu'est-ce qu'ils vont faire humainement? Ils vont vouloir partir. Et donc, ça va créer plein de phénomènes en cascade qui font de migration, de choses comme ça. Et on n'aimerait pas que ça tourne comme ça tourne actuellement en mer Méditerranée, où il y a des milliers de personnes qui meurent et plein de gouvernements européens qui n'en veulent pas. Enfin, bon, voilà, c'est vraiment tout ce côté-là. Vraiment, pourtant, c'est ça qui est fou, c'est que les solutions sont là. Et qu'on ne les applique pas, tout ça, parce qu'on est dans un modèle économique, on veut faire perdurer, on veut du profit, on veut tout ça. Et en fait, en gros, c'est le système capitaliste, il est terminé, quoi qu'il arrive. Sinon, c'est le climat qui va nous le dire, stop. Et ça sera peut-être sans nous, quoi.
C'est ça, les alternatives et les solutions existent. Et selon vous, comment Alternatiba lutte pour la justice climatique?
Alors justement, rien que les campagnes... Quand on fait, bien sûr, après, moi je parle d'Alternatiba au niveau local. National fait aussi des choses, hein, mais je ne suis pas au courant de tout, bien sûr. Mais rien qu'à Marseille, on essaie de faire changer, donc justement, certaines choses à Marseille. Donc, par exemple, rien que le collectif Mars Mob, rien que d'augmenter les mobilités alternatives, ça peut déjà être quelque chose. Stop Croisière, ça, je pense que c'est une très bonne. Solution en tout cas. Donc c'est comme ça qu'on lutte. Après, si je peux être complètement honnête, c'est très difficile de faire changer ces problèmes-là à une échelle comme la nôtre.
C'est pour ça que les actions en justice sont très importantes. Donc nous, comme j'ai dit, on mène un recours contre l'extension de l'aéroport. Et avec Stop Croisière, on a également... entamer une plainte et un recueil de plaintes, même individuelles, pour contraindre justement les croisières à s'arrêter. Et au niveau national, on participe quand même à toutes les campagnes qui ont lieu avec Notre Affaire à Tous ou ces organisations-là, pour justement contraindre l'État à agir, puisque l'État a déjà été condamné par deux reprises pour inaction climatique. Et malgré ça, il continue encore là-dessus. Donc, il me semble avoir vu qu'il y a quelques jours, il y a encore une action qui a été menée pour réclamer justement de l'État une compensation financière. Puisque si l'État ne veut pas agir, les associations se disent l'État, on demande à ce que l'État soit condamné à 1 milliard d'euros pour que nous, on puisse engager cette transition-là. Si l'État ne veut pas le faire, de toute façon, qu'est-ce qui va nous rester comme choix? Ça va être... les associations, les citoyens et tout le monde à se prendre en main là-dessus, quoi. Et quitte à se passer des politiques là-dessus, quoi. Parce que si en fait toutes les actions qui mènent sont néfastes à la survie pas que de l'humanité mais de toutes les espèces, il faut vraiment qu'on agisse et pas se cacher derrière des règles administratives comme pour l'instant c'est le cas, notamment localement. Entre des conflits entre la mairie, la métropole. Ah, mais c'est pas moi qui a la compétence, c'est lui ou c'est elle, donc je fais rien. Non, il faut vraiment arriver à dépasser ça parce que les enjeux sont tellement importants qu'on n'a plus le temps d'attendre ces atermoiements, quoi.
Si, Fréquence si. Mistral, c'est votre radio régionale des Alpes du Sud.
Oui, et si je peux rajouter ce qui est intéressant pour les actions judiciaires, c'est que beaucoup de personnes le perçoivent comme étant une action un peu agressive, une action d'une impatience. Voilà, j'ai pas ce que je veux, donc je tâterai en justice. Mais en fait, ici, c'est pas du tout le cas. Nous, on est dans une situation très, très difficile, on l'a constaté mondialement. On n'est pas écouté. Et donc, il reste uniquement la voie judiciaire. Et c'est, ça met en fait un peu ces politiques publiques, on les contraint à agir. Et encore, c'est très bien d'avoir des jurisprudences, des décisions de justice qui pourront soutenir les prochaines demandes. Or, j'ai l'impression que les condamnations, notamment sur le niveau européen, sont pas assez élevées pour choquer, pour empêcher. Les sanctions ne sont pas énormes. Donc je pense que voilà, plus il y en a, peut-être qu'à un moment, ça va agir, en espérance.
Et justement, en parlant de judiciaire, vendredi dernier, le 23 juin, les soulèvements de la terre ont été dissous par le gouvernement. Vous, comment percevez-vous ce geste politique ?
C'est aberrant. Aberrant. Parce que, comme on l'explique là depuis pas mal de minutes, en fait, tout ce qu'on fait, c'est lutter pour la préservation de vivants. Et alors, effectivement, il y a des personnes qui se disent bah, il n'y a rien qui bouge. On peut plus. Puis on affronte des périodes de sécheresse maintenant qui commencent à s'accentuer de façon dramatique. Et comment agir? Ben, l'État, tout ce qu'il a trouvé, c'est ben, on pompe de l'eau dans les nappes phréatiques et puis on le stocke dans des méga-bassines. Et puis tout ça, c'est pour donner aux gros céréaliers qui vont cultiver du maïs avec, dépenser de l'eau comme ça. La résistance, c'est aussi, elle est légitime là-dedans, quoi. Même si elle n'est pas légale, elle est légitime, puisqu'on on lutte vraiment pour... c'est une histoire de survie, maintenant.
Et oui, puis c'est des biens communs. L'eau, la terre, même si y a des propriétaires, etc. Mais en tout cas, sur l'eau, c'est un bien commun. Et si on ne l'a plus, on en meurt. Donc, c'est des enjeux de décider, puisqu'on est dans des systèmes démocratiques, de décider tout le monde ensemble sur les grands projets.
Mais oui, puis le fait d'avoir dissous les soulèvements de la terre, ça ne dissout pas la révolte, ça ne dissout pas la colère que les personnes peuvent ressentir. Et on a l'impression que ce gouvernement est prêt à tout pour faire préserver ce système. On a même entendu Gérald Darmanin se questionner sur la Ligue des droits de l'homme, ce qui est absolument fou, quoi, de se dire que... On a l'impression qu'ils vont aller jusqu'au bout. Tiens, ben, pourquoi pas on va dissoudre Greenpeace, pourquoi pas on va dissoudre Attac. Enfin, ils sont... Là, je lisais que c'est la FNSEA qui fait pression pour justement que l'État s'attaque à la Confédération paysanne. Mais jusqu'où sont-ils prêts à aller ? Voilà, c'est vraiment la question qu'on se pose.
Oui.
Pourtant, s'ils n'étaient pas au courant, on pourrait se dire qu'ils auraient cette excuse-là. Mais non, ils sont vraiment très au courant de ce qui se passe, quoi.
Donc ça montre aussi que les alternatives, comme vous venez de les présenter, commencent à représenter aussi des menaces par rapport à leur vision et leur vision du monde et leur système. Et que face à ça, ils vont déployer l'arsenal judiciaire et c'est pas très drôle, quoi.
Puis pour moi, c'est très, très contradictoire ce qu'a fait le gouvernement pour dissoudre donc, cette association, parce que au final, ils font semblant de vouloir changer les choses. Donc ils disent on applique tel droit, on met des lois en place pour essayer de lutter contre le réchauffement climatique. Et là, d'un coup, lorsqu'il y a une association qui veut justement répondre à ces demandes, ou en tout cas les faire appliquer, eh bien d'un coup, il faut la dissoudre. Donc, c'est antidémocratique. C'est flagrant.
Ouais. Je voulais rajouter qu'en fait, on est en train de... Enfin, on ressent de plus en plus le fait que la société est en train de se cliver entre les personnes qui veulent vraiment changement et celles qui veulent faire perdurer cet ancien monde. Et c'est pour ça qu'on voit que la démocratie est en train vraiment d'en souffrir, et puisque la répression monte de façon considérable. Mais de l'autre côté... la résistance monte aussi, quoi. Donc vraiment, on a vraiment cette impression que notre société se fracture et qu'on n'est peut-être pas loin d'un point de bascule. Et on espère que ce point de bascule, il serait plutôt en faveur justement de ceux qui militent pour le climat, la biodiversité, les droits humains, enfin tout ça, quoi. Et c'est ce qu'on vise effectivement dans toutes les actions qu'on mène, c'est d'arriver à faire monter les consciences. Et une fois qu'on a fait monter les consciences, que les gens se mettent à l'action. Et à l'action, mais ça peut être des actions qui sont totalement non-violentes, comme on fait nous, justement pour arriver à faire basculer ce système et basculer sur un monde qui serait vraiment vivable pour tout le monde. Et alors on nous critique en nous disant oui, mais si la France devient écologique, ça ne changera rien parce que c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. Mais en fait, non, c'est le phénomène d'emballement qui pourrait avoir lieu, mais du coup, vertueux. De dire bah, si la France applique vraiment une transition écologique radical dans le sens où on prend le problème à la racine, eh bien, du coup, on pourrait convertir tout un tas d'autres pays dans cette transition-là et arriver à trouver des solutions globales.
Et donc, vous, quelles sont les actions que vous allez mener prochainement, ou les rendez-vous ou...
C'est l'heure du call to action.
on fait beaucoup d'actions sur la libération de l'espace public devant les écoles. Donc, on essaie de bloquer des rues où il y a des écoles pour montrer aussi, voilà, regardez, sans la voiture, c'est faisable, mais en plus, c'est sympa. Après, on va, je pense, mener d'autres actions. Hein. Il y a d'autres actions qui sont prévues voilà, avec Soap Croisière, mais pour Mars Mob, en tout cas. Voilà, Street for Kids s'est lancé. On a d'autres choses aussi. Je vais laisser Christophe compléter.
Ouais, alors là, en fait, on arrive au début de l'été. Du coup, c'est vrai que les militants étaient très, très engagés pendant des mois et des mois. Donc, il y a des choses qui vont... En fait, on va prendre le temps, notamment, de finaliser l'argumentaire de Mars Mob. Et dès la rentrée, par contre, on va encore monter d'un cran et on accueillera des nouvelles personnes, des nouvelles et des nouveaux adhérents pour justement continuer à s'impliquer dans ces différentes campagnes. On prévoit des actions dès le mois de septembre. Ça, on ne peut pas vous en parler encore sur les dates ou les modalités qu'on va choisir. Mais il y aura beaucoup de choses dans toutes les campagnes dont on a parlé tout à l'heure. Il y aura beaucoup de choses qui vont se faire. Donc regardez le site internet ou nos différents réseaux sociaux pour être au courant de ça.
Vous êtes sur Facebook et Instagram ?
Facebook, Instagram, je crois qu'on a même TikTok. Parce qu'en fait, oui, ce qu'on n'a pas dit, ce qui est important, c'est qu'on a un groupe communication qui est assez fort et notamment on réalise des vidéos. Donc quand vous irez sur notre site internet, vous verrez nos premières vidéos. Et on va sortir dans les jours qui viennent un JT parodique. Et donc on tourne aussi, parce qu'on ne fait pas que militer. On passe aussi des moments conviviaux et donc ça peut passer par des moments où on utilise la dérision, mais aussi par des pique-niques qu'on organise entre nous, des apéros, des trucs comme ça, pour justement que les gens qui s'engagent sentent qu'ils font partie quand même d'un groupe et quelque chose qui va au-delà de juste militer pour une association. C'est vraiment, il y a pas mal de relations humaines qui se créent là-dedans et ça participe au changement de monde auquel on aspire. Et sinon, je voulais ajouter qu'on prépare aussi un camp climat, PACA, et avec tous les alternatibas du pourtour méditerranéen. Il y en a quand même pas mal. Il y a Nice, La Ciotat, Martigues, il y a Montpellier. Et je ne sais pas si c'était La Ciotat. Je ne sais pas si c'était La Ciotat.
Oui. Aix aussi.
Et aussi au Pays d'Aix, il y a un collectif qui ne s'appelle pas Alternatiba, mais c'est le collectif de Pays d'Aix. Un camp climat, c'est l'occasion de former les personnes. Ça peut être de la stratégie, ça peut être la désobéissance civile, mais aussi d'avoir des conférences thématiques, et notamment on s'oriente vers une programmation sur l'eau, puisqu'il y a des grosses campagnes qui sont en préparation sur l'eau. Et nous, au niveau méditerranéen, on a décidé de se saisir de ce sujet-là pour appuyer soit les mobilisations qui existent, soit en créer aussi, ou en initier, comme on a l'habitude d'en faire, justement pour répondre à tous ces enjeux-là et mettre les politiques devant la responsabilité, que ce soit au niveau de la région, au niveau de la métropole et des municipalités, quoi.
J'en suis sûr que vous avez réussi à convaincre pas mal de gens grâce à cette émission. Comment vous rejoindre ?
Alors, vous pouvez nous envoyer un mail, c'est le plus simple, hein, c'est marseille@alternatiba.eu. Sinon, allez sur notre site alternatibamarseille.org. On a un Linktree, je ne sais pas si on pourra le mettre dans votre communication.
Dans ouais.
Voilà. On a un groupe Telegram aussi, donc on utilise pas mal cette application pour soit pour envoyer des news ou discuter entre nous, de nous organiser entre les réunions. On a des plénières, nous, Alternatiba, tous les quatrièmes mercredis de chaque mois. Donc il y en aura une au mois de juillet, pas au mois d'août, hein, pendant les vacances. Mais après, c'est les quatrièmes mercredis de chaque mois. Et les plénières, c'est des moments qui sont très démocratiques, puisqu'on n'a pas de président, on est vraiment en démocratie horizontale. On essaie d'appliquer l'autogestion au maximum dans nos échanges. La bienveillance, c'est quelque chose de très important dans nos valeurs. Essayer de se respecter les uns les autres en fonction de leur rythme, du temps qu'ils peuvent consacrer ou pas, et de pouvoir faire des pauses quand ils le veulent. Voilà, ça c'est quelque chose, c'est des marqueurs vraiment très importants d'Alternativa pour pouvoir militer sereinement.
Et c'était à la base à Marseille ou au Chartreux, c'est ça ?
Voilà, donc la base, ce que j'ai dit, je crois, en début d'émission, c'est la base d'action sociale et écologique qui regroupe une trentaine de collectifs et d'associations qui viennent quasiment toutes les semaines. Et il y en a plus de 250 qui l'ont déjà au moins utilisé une fois. Et on a des réseaux interbases pour justement échanger entre nous de la stratégie, de la programmation, de tout ça. Et la base est un lieu autogéré aussi, autofinancé. Donc voilà, on essaie d'appliquer à nous-mêmes ce modèle qu'on voudrait voir se développer.
Et j'imagine que Mars Mob, on retrouvera aussi suite à la rentrée, une fois que l'argumentaire sera finalisé, différentes actions dans les rues.
Oui, exact. Donc pareil, hein, on est sur les réseaux aussi, mais donc via Alternativa.
Oui.
Après, chaque association publie ce que fait Mars Mob. Et donc, oui, on est aussi à la base avec des réunions qu'on essaie d'organiser toutes les deux semaines, à peu près.
Eh bien, merci beaucoup, Rebecca et Christophe, d'être venus aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci.